Évangile selon Marc, chapitre 14. Le souper à Béthanie. Versets 1 à 11.
Lecture de la parole. Or, deux jours après, c'était la Pâque et les pains sans levain. Et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment ils pourraient se saisir de lui par ruse et le faire mourir. Car il disait, non pas pendant la fête, de peur qu'il n'y ait du tumulte parmi le peuple. Et comme il était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, et qu'il était à table, une femme vint, ayant un vase d'albâtre plein d'un parfum de nard pur et de grand prix. Et, ayant brisé le vase, elle le répandit sur sa tête. Et quelques-uns étaient là qui s'indignaient en eux-mêmes et disaient « À quoi bon la perte de ce parfum ? Car ce parfum aurait pu être vendu plus de 300 deniers et être donné aux pauvres. » Et ils la reprenaient vivement. Mais Jésus dit « Laissez-la. Pourquoi lui donnez-vous du déplaisir ? Elle a fait une bonne œuvre envers moi, car vous avez toujours les pauvres avec vous. » Et quand vous voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Ce qui était en son pouvoir, elle l'a fait. Elle a anticipé le moment d'oindre mon corps pour ma sépulture. Et en vérité, je vous dis, en quelque lieu que cet évangile soit prêché dans le monde entier, on parlera aussi de ce que cette femme a fait en mémoire d'elle. Et Judas Iscariote, l'un des 12, s'en alla vers les principaux sacrificateurs pour le leur livrer. Et ceux-ci, l'ayant entendu, s'en réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et ils cherchaient comment ils le livreraient commodément.
Lecture de l'étude. Pendant que les principaux sacrificateurs et les scribes chercher comment il pourrait se saisir de Jésus pour le faire mourir, une scène bien différente se passait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, où le Seigneur était à table avec ses disciples. Une femme, que l'évangéliste ne nomme pas, mais que nous savons être Marie, brisa un vase d'albâtre plein d'un parfum de nard pur de grand prix, qu'elle répandit sur la tête de Jésus. Quelques-uns des assistants, les disciples, s'indignèrent et dirent « À quoi bon la perte de ce parfum ? Car ce parfum aurait pu être vendu plus de 300 deniers et être donné aux pauvres. » Et ils la reprenaient vivement. Les disciples, Judas surtout, manifestaient combien peu ils comprenaient les sentiments de cette femme qui provenait de son grand amour pour Jésus. Matthieu 26, verset 8, et Jean 12, verset 4.
Et les disciples, le voyant, furent indignés, disant « À quoi bon cette perte ?» Jean 12, verset 4, l'un des disciples, donc, Judas Iscariote, fils de Simon qui allait le livrer, dit « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers et donné aux pauvres ?»
Cet amour la rendait capable de comprendre ce qu'il convenait de témoigner à son Seigneur au moment où les hommes allaient donner essor à leur haine contre l'objet de son cœur, haine qui ne serait assouvie que par la mort de celui dont ils ne pouvaient plus supporter la présence bénie au milieu d'eux. Marie veut, au contraire, montrer combien la personne de Jésus a de prix pour elle. Elle a appris à ses pieds les perfections et les gloires de l'homme-Dieu qui aimait à se retirer chez elle comme prophète et serviteur. Il n'y avait rien de trop grand à ses yeux pour exprimer le prix d'une telle personne pour elle. Étrangers à l'épanchement d'un cœur qui s'était alimenté aux sources de l'amour, les disciples ne pouvaient apprécier la valeur de leur maître, ni, par conséquent, ressentir les effets qu'aurait dû produire en eux l'approche de sa mort. Ils ne voyaient dans l'acte de cette femme qu'une perte matérielle qui privait les pauvres de secours. Donner aux pauvres est une bonne chose, mais pour qu'un acte ait de la valeur aux yeux de Dieu, il doit être accompli en son temps. La sagesse consiste à laisser les choses à leur place et à agir en conséquence. L'amour pour Christ est le directeur suprême qui rend capable de discerner ce qu'il convient de faire selon les circonstances. Il y a une saison pour tout et il y a un temps pour toute affaire sous les cieux, Ecclésiaste 3, verset 1. Marie avait compris que c'était la dernière occasion qu'elle avait de témoigner son amour à son Seigneur. Elle pressentait qu'il allait lui être enlevé. Aussi Jésus leur répond « Laissez-la. Pourquoi lui donnez-vous du déplaisir ? Elle a fait une bonne œuvre envers moi, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et quand vous voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » Ce qui était en son pouvoir, elle l'a fait. Elle a anticipé le moment d'oindre mon corps pour ma sépulture, verset 7-8. Jésus donne à l'acte de Marie une portée dont elle ne se doutait pas. Car, pressentant la mort de son Seigneur, elle voulait lui accorder l'onction royale, mais Jésus, sachant qu'il ressusciterait, l'accepte pour son embaumement, privilège que seule elle a eu, puisque les autres femmes pieuses qui voulurent aller accomplir ce service trouvèrent le sépulcre vide, et l'on remarque que Marie de Béthanie ne se trouvait pas avec elle. Son service était accompli. Combien cet acte était précieux au cœur de Jésus, dans un moment tel que celui-là, où tous s'opposaient à lui, et où ses disciples même entraient si peu dans ses pensées, et savaient si peu comprendre leur maître, et lui témoignaient ce qui convenait. Aussi, dit-il, en vérité, je vous dis, en quelque lieu que cet évangile soit prêché dans le monde entier, on parlera aussi de ce que cette femme a fait, en mémoire d'elle, verset 9. Un tel acte se liait si intimement à la mort de Christ que l'on ne pourrait parler de cette mort, base de l'Évangile, sans parler de ce que Marie avait fait. Puissions-nous tous aimer assez le Seigneur pour comprendre mieux ce que nous pouvons faire pour lui, au milieu du monde qui le rejette, aujourd'hui comme alors. Bientôt, toute occasion disparaîtra pour nous de faire quelque chose pour lui, en présence de ceux qui le haïssent. C'est pourquoi nous devons saisir l'occasion lorsqu'elle se présente, car nous sommes au dernier jour. Le Seigneur est proche, il vient. Jésus ne demande pas des choses hors de notre portée. Il dit de cette femme, ce qui était en son pouvoir, elle l'a fait. Nous devons le servir selon nos moyens, selon nos capacités. Ce qui importe, c'est que l'amour pour lui nous fasse agir. Cela seul donne à nos œuvres leur valeur devant Dieu. L'état de Judas présente un contraste affligeant avec celui de Marie. Alors qu'elle témoigne au Seigneur son attachement, son estime, d'une manière si digne et qu'elle réjouit son cœur, Judas va réjouir le cœur des principaux sacrificateurs et des chefs du peuple en leur offrant de leur livrer son maître pour de l'argent. Dès lors, il cherchait comment il le livrerait commodément. Triste exemple de l'aveuglement dans lequel peut tomber un homme qui, tout en ayant été mis en rapport avec la vérité, a nourri son cœur de convoitises charnelles. Tous ceux qui ont le privilège d'être aussi en contact avec la vérité dans les familles chrétiennes doivent prendre garde de ne pas laisser endurcir leur cœur en suivant leur penchant naturel. La Pâque, versets 12 à 21.
Lecture de la parole. Et le premier jour des pains sans levain, lorsqu'on sacrifiait la Pâque, ses disciples lui disent « Où veux-tu que nous allions préparer ce qu'il faut afin que tu manges la Pâque ?» Et il envoie deux de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, et un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre, suivez-le. Et où qu'il entre, dites au maître de la maison, Le maître dit, « Où est mon logis où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et lui vous montrera une grande chambre garnie, toute prête. Apprêtez-nous là ce qu'il faut. » Et ses disciples s'en allèrent et entrèrent dans la ville et trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils apprêtèrent la Pâque. Et le soir étant venu, ils viennent avec les 12. Et comme ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « En vérité, je vous dis que l'un d'entre vous qui mange avec moi me livrera. » Et ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Et un autre, « Est-ce moi ?» Mais répondant, il leur dit, « C'est l'un d'entre les 12 qui trempe avec moi au plat. Le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il eût été bon pour cet homme-là qu'il ne fût pas né. »
Lecture de l'étude. Le Seigneur voulait encore célébrer avec les siens cette Pâque, la dernière, avant qu'il accomplisse sur la croix ce dont elle était le type. Fait remarquable, la crucifixion de Jésus eut lieu ce jour-là, bien que les chefs des Juifs eussent cherché à l'éviter par crainte de la foule. Les choses arrivent quand Dieu le veut. Les hommes ne peuvent être que les instruments, souvent inconscients, de l'accomplissement de sa volonté. Les disciples désirent savoir où ils pourront préparer ce qu'il faut pour manger la Pâque. Jésus en envoie 2 à la ville, leur donnant toutes les indications pour qu'ils trouvent le nécessaire. « Allez à la ville, leur dit-il, et un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre, suivez-le. Et où qu'il entre, dites au maître de la maison, « Où est mon logis où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et lui vous montrera une grande chambre garnie, toute prête. Apprêtez-nous là ce qu'il faut. Et les disciples s'en allèrent et entrèrent dans la ville, et trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils apprêtèrent la Pâque. C'est 13-16. Jésus connaissait tout à l'avance, mais il ne se sert de sa toute science que pour accomplir l'œuvre que son Père lui avait donnée à faire. Il ne sort jamais de sa position de dépendance et de serviteur. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Comme ils mangeaient, il leur dit, « En vérité, je vous dis que l'un d'entre vous qui mange avec moi me livrera. » Verset 18. À dessein, Jésus ne leur annonce pas lequel d'entre eux le livrerait. « Un d'entre vous, dit-il, un de ceux qui avaient persisté à le suivre, un de ceux qui avaient été les objets de ses soins, un de ceux qu'il avait choisi. » Jésus veut sonder leur cœur par cette parole. L'un après l'autre, ils lui demandent « Est-ce moi ?» Ils se défient d'eux-mêmes et supportent cette épreuve dans un bon esprit, admettant que, bien qu'ils n'en eussent eu aucun désir, ils étaient capables d'accomplir un tel acte. Nous ne pouvons jamais avoir l'assurance que nous ne commettrons jamais tel ou tel mal. Mais si nous nous en savons capables, nous cherchons le secours dans le Seigneur et sommes au bénéfice de son intercession, car il s'occupe des siens afin qu'ils ne succombent pas à la tentation. Jésus leur répondit, « C'est l'un d'entre les 12 qui trempe avec moi au plat. Dans les repas, en Orient, en guise de fourchette, de cuillère, chacun prend un morceau de pain que l'on trempe dans le plat. C'était ce que les 12 avaient le privilège de faire avec le Seigneur. Par cet acte d'intimité, il désigne le traître. Cela aurait dû toucher son cœur si c'eût été encore possible. Jésus ajoute, « Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il eût été bon pour cet homme-là qu'il ne fût pas né. » Verset 21. Le Seigneur reconnaît que ce qui le concerne, lui, le Fils de l'homme, doit s'accomplir. Mais cela n'atténue pas la culpabilité de celui qui se prête à l'ennemi pour perpétrer ce forfait. Il y a toujours 2 côtés à considérer dans les voies de Dieu. Le côté de Dieu qui est au-dessus de tout et qui fait tout concourir à l'accomplissement de ses desseins, est le côté de la responsabilité de l'homme qui doit porter les conséquences de ses actes. C'est ce que montre ce passage parmi beaucoup d'autres. Les Écritures s'accomplissent, mais Judas portera les conséquences de son horrible péché. Les hommes sont coupables de la mort de Christ, mais Dieu, par cette mort, peut accomplir ses pensées de grâce envers tous. Institution de la scène, versets 22 à 31.
Lecture de la parole. Et comme il mangeait, Jésus, ayant pris un pain et ayant béni, le rompit et le leur donna et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Et ayant pris la coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour plusieurs. En vérité, je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Et ayant chanté une hymne, ils sortirent et s'en allèrent à la montagne des Oliviers. Et Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, j'irai devant vous en Galilée. » Et Pierre lui dit, « Si même tous étaient scandalisés, je ne le serais pourtant pas, moi. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te dis qu'aujourd'hui, cette nuit-ci, avant que le coq ait chanté deux fois, toi, tu me renieras trois fois. » Mais Pierre disait encore plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. » Et ils dirent tous aussi la même chose.
Lecture de l'étude. Jésus allait accomplir sur la croix ce que représentait la fête de la Pâque. Elle n'aurait plus désormais sa raison d'être. C'est pourquoi, encore à table, Jésus institue la scène, ce mémorial de sa mort, que tous ses rachetés ont le privilège de prendre durant son absence. Jésus, ayant pris un pain et ayant béni, le rompit et le leur donna, et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Et ayant pris la coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous, versets 22 et 23. Chaque croyant a le privilège de se souvenir du Seigneur mort pour lui, en attendant le moment où nous le verrons et où nous le contemplerons dans sa gloire, comme l'agneau qui a été immolé. Mais si le racheté possède cette faveur, c'est à la condition de se montrer, dans sa marche, conséquente avec l'acte qu'il accomplit. Car, en prenant la scène, il proclame que Jésus a dû mourir pour ôter ses péchés. Il ne peut donc tolérer le péché dans sa vie. Ce serait une contradiction. Si par malheur il vient à pécher, il doit le confesser à Dieu, avec affliction, afin d'être relevé et de pouvoir participer à ce mémorial qui parle autant de la sainteté que de l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Si un croyant ne se juge pas, sa conscience s'endurcit. Il peut tomber si gravement qu'il prend le caractère d'un méchant, ce qui oblige l'assemblée de l'exclure. Malheureusement, aujourd'hui, un grand nombre de chrétiens ne prennent pas la scène, par indifférence ou par ignorance, ou bien ne la prennent pas selon la pensée du Seigneur. Ils se privent d'un grand privilège et, surtout, ils refusent au Seigneur ce qu'il a demandé d'eux le soir qu'il fut livré. Jésus dit encore aux disciples, « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour plusieurs. En vérité, je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Verset 24. La nouvelle alliance est pour Israël, qui avait vécu sous une première alliance, rompue par l'infidélité du peuple. Ainsi, au lieu de recevoir la bénédiction, Israël fut abandonné de Dieu pour un temps, mais Dieu, fidèle à ses promesses, voulait bénir son peuple terrestre. il fit pour lui une nouvelle alliance basée sur le sang de Christ, en vertu duquel Dieu pourra le bénir selon les promesses faites au Père et accomplir tout ce que les prophètes avaient annoncé quant au règne de Christ. En même temps que le sang de Christ est le fondement de la bénédiction future d'Israël, il est aussi le moyen par lequel tous ceux qui croient peuvent obtenir la rémission de leurs péchés. Il a été versé pour plusieurs, non seulement pour les Juifs, mais pour tous ceux qui se placeront par la foi sous son efficace. Jésus dit qu'il ne boira plus du fruit de la vigne jusqu'à ce qu'il le boive nouveau dans le royaume de Dieu. Le vin est l'emblème de la joie. Cette joie, le Seigneur n'a pas pu la réaliser avec Israël dans son état de péché, mais elle sera sa part d'une manière nouvelle, c'est-à-dire céleste, une fois le royaume de Dieu établi. Pour la bénédiction d'Israël, tout est remis à plus tard, mais en attendant qu'elle s'accomplisse, les disciples ont à se souvenir du Seigneur, mort sur la croix pour ôter leurs péchés. Ils sont introduits dans les bénédictions célestes et éternelles, bien plus élevées que celles du peuple juif. Ils font partie de l'Église qui, sur cette terre, partage le rejet de son Seigneur et se souvient de lui en attendant son retour. Lors de sa manifestation en gloire comme roi des rois et seigneur des seigneurs, l'Église apparaîtra dans la même gloire comme épouse du roi. La Pâque se termine par le chant d'un cantique et Jésus, conscient de tout ce qui allait se passer quelques heures plus tard, se rend à la montagne des Oliviers en entretenant ses disciples de ces événements. « Vous serez tous scandalisés, leur dit-il, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, j'irai devant vous en Galilée. » Tous allaient passer par de terribles moments où leur foi serait soumise à une rude épreuve en voyant leur maître livré entre les mains des hommes. Oserait-il se prononcer pour lui comme au temps où il l'entourait et jouissait de sa protection, en s'attendant à le voir reconnu publiquement comme Messie? Leur foi, quant à sa personne, supporterait-elle de le voir mettre à mort, ou continueraient-ils à croire en lui? Pierre, confiant en lui-même, répond, « Si même tous étaient scandalisés, je ne le serais pourtant pas, moi. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te dis qu'aujourd'hui, cette nuit-ci, avant que le coq ait chanté deux fois, toi, tu me renieras trois fois. » Mais Pierre disait encore plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. » Et ils dirent tous aussi la même chose, versets 29 à 31. Pierre aimait profondément le Seigneur. Il parlait avec sincérité, mais il mettait sa confiance dans son affection pour Christ, afin de le suivre au moment de l'épreuve. Il dut apprendre, et nous aussi, que rien en nous ne peut donner la force de suivre Christ et de le servir, pas plus nos bons sentiments que nos bonnes résolutions, ni le bien que nous pouvons avoir accompli, ni même le fait que nous sommes enfants de Dieu, ne peuvent être la source de la puissance dont nous avons besoin, surtout dans l'épreuve. Cette source ne se trouve qu'en dehors de nous, en Dieu lui-même. Nous ne pouvons y avoir recours que dans le sentiment réel de notre impuissance. Alors nous pourrons dire avec l'apôtre Paul, « Quand je suis faible, alors je suis fort » de Corinthiens 12, versets 9 et 10. Par la grâce de Dieu, Pierre a pris cette leçon, mais au travers d'une humiliation profonde, car la confiance en nous-mêmes nous engage toujours dans des difficultés dont elle ne peut nous laisser sortir que battus. Et si nous comptons sur Dieu seul, nous pouvons dire aussi comme Paul, « Je puis toutes choses en celui qui me fortifie » Philippiens 4, verset 13. Gethsémané, versets 32 à 42.
Lecture de la parole. Et ils viennent en un lieu dont le nom était Gethsémané. Et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'aie prié. » Et il prend avec lui Pierre et Jacques et Jean. Et il commença à être saisi d'effroi et fort angoissé. Et il leur dit, « Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez. » et s'en allant un peu plus avant, il se jeta contre terre, et il priait que, s'il était possible, l'heure passât loin de lui. Et il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, fais passer cette coupe loin de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, moi, mais ce que tu veux, toi. » Et il vient et les trouve dormants. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors ? Tu n'as pu veiller une heure ? Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Et il s'en alla de nouveau, et il pria, disant les mêmes paroles. Et s'en étant retourné, il les trouva de nouveau dormants, car leurs yeux étaient appesantis, et ils ne savaient que lui répondre. Et il vient pour la troisième fois et leur dit, « Dormez dorénavant et reposez-vous, il suffit, l'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'est approché. »
Lecture de l'étude. L'heure d'angoisse approchait, dans laquelle Jésus devrait s'avancer résolument pour rencontrer l'ennemi dans sa dernière forteresse et subir toutes les conséquences du péché pour sauver le pécheur. En entretenant ses disciples de ce qui allait leur arriver, il les conduit au jardin de Gethsémané. Là, il leur dit, « Asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'aie prié. » Et il prend avec lui Pierre et Jacques et Jean. Et il commença à être saisi d'effroi et fort angoissé. Et il leur dit, « Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez. » Versets 32 à 34. Jésus, seul dans cette heure terrible, devait nécessairement être seul, seul en face de l'ennemi qui allait chercher à le faire reculer en accablant son âme sainte des conséquences de son obéissance jusqu'à la mort. Cependant, il désire avoir avec lui les trois disciples qu'il a pris dans d'autres circonstances. Marc 5, verset 37.
Et il ne permit à personne de le suivre, sinon à Pierre et à Jacques et à Jean, le frère de Jacques.
Marc 9, verset 2.
Et après 6 jours, Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean et les mène seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux.
Son cœur humain cherche de la sympathie dans ce moment auprès de ceux avec lesquels il paraît avoir eu le plus d'intimité. Mais, saisi de tristesse jusqu'à la mort, Jésus s'en va plus avant, ses faibles disciples étant incapables de partager avec lui les angoisses de cette heure effroyable. Jésus s'éloigne encore, et là, seul, il dit, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, fais passer cette coupe loin de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, moi, mais ce que tu veux, toi. » Verset 36. Dieu pouvait faire passer cette coupe loin de son Fils bien-aimé, mais dans ce cas, cher lecteur, nous aurions dû la boire, ce qui nous aurait valu le châtiment éternel. Nous ne pouvons comprendre ce que ce fut pour le cœur de Dieu le Père que d'entendre son Fils, son unique, s'adresser à lui en employant le terme le plus intime, « Abba », propre à faire vibrer les cordes les plus sensibles de la relation d'un fils avec son père. Une note en bas de page, « Abba » est un mot hébreu qui signifie « père », mais en donnant l'idée de l'affection la plus tendre et la plus familière qui découle de la relation familiale. C'est beau de voir en Romains 8, verset 15, que la grâce a placé le croyant dans une relation semblable avec Dieu comme Père. Mais l'amour de Dieu voulait sauver les pécheurs. C'est pourquoi il dut faire taire en ce moment son amour pour son fils, comme Abraham lorsque Isaac lui demandait où était la victime pour l'Holocauste, et qu'il leva ensuite la main pour le sacrifier, avec cette différence toutefois qu'Abraham sacrifiait son fils pour Dieu, tandis que Dieu sacrifiait son fils pour des pécheurs, des ennemis. L'amour de Jésus se soumet pour accomplir la volonté du Père, le glorifier dans sa mort et lui donner comme un nouveau motif de l'aimer, ainsi qu'il le dit en Jean 10, verset 17. À cause de ceci, le Père m'aime, c'est que moi je laisse ma vie, afin que je la reprenne. Jésus revient vers ses trois disciples et les trouve endormis. Il s'adresse à Pierre en lui disant, « Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller une heure ?» Après ce doux reproche, Pierre aurait dû comprendre sa faiblesse. Il aurait ainsi évité la honte et les douleurs de son reniement. Jésus ne cherche pas du secours auprès d'eux. Il les exhorte à veiller pour eux-mêmes, afin qu'ils n'entrent pas en tentation, car, leur dit-il, l'esprit est prompt, mais la chair est faible. L'esprit est prompt à vouloir faire le bien, à se dévouer, mais la chair est faible pour l'accomplir. Elle cherche toujours à se ménager. C'est pourquoi il ne faut avoir en elle aucune confiance. Jésus s'en alla de nouveau et pria en disant les mêmes paroles. Puis il revint vers les disciples pour la troisième fois et les trouva encore endormis. Ils ne surent que lui répondre, mais lui leur dit, « Dormez dorénavant et reposez-vous, il suffit, l'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'est approché. » Verset 42-43. Amour merveilleux que celui de Jésus pour ses faibles disciples. Il ne leur adresse aucun reproche. Désormais, ils pouvaient dormir, se reposer. Leur maître était leur sauveur. Il allait tout accomplir afin de leur procurer, ainsi qu'à tout croyant, un repos éternel. Lui seul pouvait entrer dans le combat afin de les délivrer. Dans ce moment-là, il ne comprenait rien à ce qui se passait. Mais plus tard, après la résurrection de Jésus et la descente du Saint-Esprit, ils comprirent tout, et bientôt, avec nous, ils le comprendront mieux encore lorsque nous verrons face à face celui qui était avec eux dans le jardin de Gethsémané. Trahison de Judas, versets 43 à 52.
Lecture de la parole. Et aussitôt, comme il parlait encore, Judas, l'un des douze, se trouve là, et avec lui une grande foule avec des épées et des bâtons de la part des principaux sacrificateurs et des scribes et des anciens. Et celui qui le livrait leur avait donné un signe disant, « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le et emmenez-le sûrement. » Et quand il fut venu, aussitôt, s'approchant de lui, il dit, « Rabbi, Rabbi !» et il le baisa avec empressement. Et ils mirent les mains sur lui et se saisirent de lui. Et l'un de ceux qui étaient là, présents, ayant tiré l'épée, frappa l'esclave du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Et Jésus, répondant, leur dit, « Êtes-vous sortis comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour me prendre ? J'étais tous les jours avec vous, enseignant dans le temple, et vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Et tous le laissèrent et s'enfuirent. Et un certain jeune homme le suivit, enveloppé d'une toile de fin lin sur le corps nu, et ils le saisissent, et, abandonnant la toile de fin lin, il leur échappa tout nu.
Lecture de l'étude. Jésus parlait encore avec ses disciples lorsque arriva une foule armée d'épées et de bâtons, conduite par Judas qui s'était mise à la disposition des chefs du peuple pour leur livrer Jésus. Entièrement sous le pouvoir de Satan, Judas désigne Jésus à ses misérables compagnons en lui donnant le baiser convenu, car il leur avait dit « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le et emmenez-le sûrement. » Lorsqu'ils se saisirent de Jésus, Pierre tira son épée, frappa l'esclave du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Cet évangile, ordinairement si abstrait, ne rapporte pas ce que Jésus dit à Pierre. Voir Matthieu 26, versets 52 à 54.
Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée en son lieu, car tous ceux qui auront pris l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, et il me fournira plus de 12 légions d'anges ? Comment donc seraient accomplies les Écritures qui disent qu'il faut qu'il en arrive ainsi ?»
Serviteur parfait et victime volontaire, il ne parle pas des 12 légions d'anges qu'il aurait pu demander à son Père comme Messie. Marc rapporte seulement les paroles de Jésus à la foule. « Êtes-vous sortis comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour me prendre ? J'étais tous les jours avec vous, enseignant dans le temple, et vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Verset 49. S'il n'y avait pas eu les Écritures à accomplir, ni la foule ni ses armes n'auraient eu aucun pouvoir contre Jésus. C'était lui qui se livrait. En leur disant « Amenez-le sûrement », Judas leur fait croire que toutes ces mesures de violence étaient nécessaires. Il l'avait souvent vu leur échapper, et Judas pensait probablement que Jésus leur échapperait encore cette fois. Ainsi, il trompait ceux auxquels il livrait son maître, afin d'obtenir de l'argent. Terrible exemple de l'état dans lequel un homme peut tomber en cherchant à satisfaire une passion au lieu de lutter contre elle pour en être délivré, surtout quand il se trouve en présence de la lumière, comme Judas l'a été et comme nous le sommes tous au moyen de l'Évangile. Il est dit que si l'œil n'est pas simple, il est méchant. Matthieu 6, versets 22-23.
La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est simple, ton corps tout entier sera plein de lumière. Mais si ton œil est méchant, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres ?
Notre œil est simple quand le Seigneur sert de mobile à nos actions. Avoir l'œil méchant, c'est se laisser gouverner par autre chose que lui pour agir. Si Judas avait aimé le Seigneur, il aurait cherché à lui plaire et n'en serait pas arrivé là. Mais ayant nourri en lui l'amour de l'argent, il n'a vu dans son maître qu'un moyen de s'en approprier, spéculant, sans doute, sur la puissance qu'il déploierait pour se délivrer. C'est pourquoi, lorsqu'il sut Jésus condamné, son désespoir le conduisit au suicide. Voyant Jésus emmené, tous l'abandonnèrent et s'enfuirent. Un jeune homme vêtu d'une toile de fin lin voulut cependant le suivre. Il s'exposait à être traité comme le Seigneur lui-même. Pour être en état de le supporter, il faut une force spéciale que lui seul peut donner et que l'on ne trouve pas, comme nous l'avons dit plus haut, dans ses bonnes résolutions. Aussi, lorsque ceux qui emmenaient Jésus voulurent se saisir du jeune homme, le voile dont il était vêtu leur resta dans les mains et il leur échappa tout nu. La profession, figurée par les vêtements, ne suffit pas pour supporter l'épreuve dans la marche à la suite d'un Christ rejeté. Ce vêtement abandonné manifeste l'état réel avec honte. La nudité représente l'état naturel de l'homme à la suite du péché. Souvenons-nous, chers lecteurs, que pour être fidèles au Seigneur et le suivre, nous devons toujours avoir la conscience de notre faiblesse, afin de rechercher en lui la force et le secours, cette puissance qui s'accomplit dans l'infirmité. Jésus devant le souverain sacrificateur, versets 53 à 65.
Lecture de la parole. et ils amenèrent Jésus au souverain sacrificateur. Et tous les principaux sacrificateurs et les anciens et les scribes s'assemblent auprès de lui. Et Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur du palais du souverain sacrificateur, et il s'assit avec les huissiers et se chauffait près du feu. Or les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelque témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point, car plusieurs portaient de faux témoignages contre lui, et les témoignages ne s'accordaient pas. Et quelques-uns s'élevèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant, « Nous l'avons entendu, disant, moi je détruirai ce temple qui est fait de main, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main. » Et ainsi non plus leur témoignage ne s'accordait pas. Et le souverain sacrificateur, se levant devant tous, interrogea Jésus, disant, « Ne réponds-tu rien ? De quoi ceci témoigne-t-il contre toi ? » Et il garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea encore et lui dit, « Toi, tu es le Christ, le Fils du béni ? » Et Jésus dit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. » Et le souverain sacrificateur, ayant déchiré ses vêtements, dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez ouï le blasphème. Que vous ensemble ?» Et tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher contre lui, et à lui couvrir le visage, et à lui donner des soufflets, et à lui dire « Prophétise !» Et les huissiers le frappaient de leurs mains.
Lecture de l'étude. On amena Jésus au souverain sacrificateur, devant lequel s'assemblent les autres sacrificateurs, les anciens et les scribes. Tous cherchaient quelque témoignage contre Jésus, afin de l'accuser et de le condamner à mort. Sa condamnation décidée, sans aucun motif autre que la haine, il fallait la justifier, d'une manière quelconque, auprès du gouverneur. Seul celui-ci avait le droit de prononcer une sentence de mort. On produisit de faux témoins, mais leurs témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns affirmèrent qu'ils avaient entendu dire à Jésus, « Moi, je détruirai ce temple qui est fait de main, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main. » Une citation démontre aisément la fausseté de ce témoignage. Voir Jean 2, verset 19. « Détruisez ce temple, son corps, et en 3 jours je le relèverai. » Parole dont le sens est facile à saisir. Voyant qu'ils n'atteignaient pas leur but par des témoignages si peu concordants, le souverain sacrificateur s'adressa à Jésus en disant, « Ne réponds-tu rien ? De quoi ceci témoigne-t-il contre toi ? » Jésus ne répondit rien. Ils pouvaient contrôler eux-mêmes la véracité de leurs témoins, mais la lumière de toute sa vie avait brillé devant eux sans dissiper les ténèbres de leur cœur. Jésus n'avait rien à dire de plus, puisque son témoignage avait été rejeté. De nouveau, le souverain sacrificateur l'interrogea et lui dit, « Toi, tu es le Christ, le Fils du béni ? » Et Jésus dit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. » Et le souverain sacrificateur, ayant déchiré ses vêtements, dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez ouï le blasphème, que vous ensemble ?» Et tous le condamnèrent comme méritant la mort, versets 60 à 64. L'interrogatoire prend fin, car ils ont atteint leur but. Cette assemblée de dignitaires juifs se livre, contre la personne de Jésus, aux insultes les plus basses et les plus vulgaires. On lui crache au visage. On lui donne des soufflets en lui disant « prophétise ». En effet, Jésus venait de prophétiser, car sa réponse au souverain sacrificateur voulait dire que, puisqu'il le rejetait comme Messie ou Christ, il allait prendre place à la droite de Dieu comme Fils de l'homme et qu'il le verrait venir comme tel sur les nuées. Alors ils se lamenteront, voyant en ce roi des rois et seigneur des seigneurs, celui qu'ils ont percé. Matthieu 24, verset 30.
Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire.
Apocalypse 1, verset 7.
Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen.
Zacharie 12, verset 10.
Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers moi celui qu'ils auront percé, et ils se lamenteront sur lui, comme on se lamente sur un fils unique. Et il y aura de l'amertume pour lui, comme on a de l'amertume pour un premier-né.
Reniement de Pierre, versets 66 à 72.
Lecture de la parole. Et comme Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du souverain sacrificateur vient, et, apercevant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et dit, « Et toi, tu étais avec le Nazarénien Jésus ?» Et il le nia, disant, « Je ne sais ni n'entends ce que tu dis. » Et il sortit dehors dans le vestibule, et le coq chanta. Et la servante, l'apercevant encore, se mit à dire à ceux qui étaient là, « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Et encore un peu après, ceux qui étaient là présents dirent à Pierre, « Certainement tu es de ces gens-là, car aussi tu es Galiléen. » Et il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et le coq chanta pour la seconde fois. Et Pierre se ressouvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Et en y pensant, il pleura.
Lecture de l'étude. Pendant que la troupe emmenait Jésus, Pierre suivait de loin et vint jusque dans la cour du palais du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les huissiers près du feu qu'ils avaient allumé. Si Pierre n'était pas en état de suivre de près son maître, il voulait au moins le suivre de loin. À distance, il risquait moins d'être pris pour un de ses disciples. Mais c'est ce qui lui permettait de se trouver en compagnie des huissiers qui venaient de frapper le Seigneur, verset 65. Il pensait voir ce qui allait se passer sans être connu. L'épreuve arriva. Trop engagé pour l'éviter, il devait passer par le crible, afin de pouvoir, plus tard, suivre de près son cher maître. Une servante, le voyant se chauffer, lui dit, « Et toi, tu étais avec le Nazarénien Jésus ?» Et il le nia, disant, « Je ne sais ni n'entends ce que tu dis. » Après quoi il sortit, et le coq chanta. La servante, l'apercevant encore, dit à ceux qui étaient là, « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Et encore un peu après, ceux qui étaient là présents dirent à Pierre, « Certainement tu es de ces gens-là, car aussi tu es Galiléen. » Et il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et le coq chanta pour la seconde fois. Et Pierre se ressouvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » En y pensant, il pleura, versets 67 à 72. Quelle douleur ce fut pour son cœur lorsqu'il revint à lui-même et qu'il se rendit compte de ce qu'il venait de faire, car il aimait réellement le Seigneur. Sincère dans son désir de ne pas abandonner son maître, dans l'ardeur de sa nature, il comptait sur lui-même pour accomplir ce qu'il désirait. Judas n'avait point d'amour pour Jésus, c'est pourquoi il n'y eut aucune ressource pour lui lorsqu'il se rendit compte de son forfait. Dieu, dans ses voies de grâce, emploie les chutes des siens pour leur enseigner ce qu'ils auraient pu apprendre en écoutant la parole et sans déshonorer le Seigneur. puissions-nous tous prêter assez attention à ce que la parole de Dieu nous enseigne, afin d'être instruits par elle, sans avoir besoin de faire des expériences humiliantes qui déshonorent le Seigneur.